Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La grève générale jeudi prochain dans le secteur public et la fonction publique en Tunisie, un mouvement à l'appel de la centrale syndicale UGTT. Le président américain Joe Biden se rendra en Arabie Saoudite les 15 et 16 juillet prochains, annonce de l'agence de presse officielle saoudienne. La journée mondiale du don du sang, il manque 30 000 poches en France pour répondre aux besoins. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'EFS, sera l'un de nos invités. Regard dans votre journal sur Le Gardien des Mondes, le documentaire de la réalisatrice Leïla Chaibi. Il sera présenté ce mercredi à Tunis. Nous écouterons Leïla Chaibi. Un projet d'ouverture d'un centre pour toxicomanes dans le 16e arrondissement de Paris suscite l'inquiétude de riverains. Ces personnes pourraient être soignées, sevrées, avec un encadrement adapté. Mais là, c'est la logique perdant-perdant pour les familles et pour les toxicomanes, selon les mots de l'élu LR de Paris, Samia Badat Karam, que nous écouterons. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, victoire du Maroc lundi soir, 2-0 face au Libéria. C'était lors du deuxième match des Lions de l'Atlas. Elle démarrera ce jeudi en Tunisie, la grève générale dans le secteur public et la fonction publique. La centrale syndicale UGTT a qualifié d'échec la séance de négociation qui s'est tenue entre les représentants du gouvernement et ceux du syndicat. Le syndicat qui maintient ainsi son appel à la grève. L'UGTT demande notamment l'annulation de la contribution sociale de solidarité de 1% et la finalisation des négociations concernant les agents du secteur public. La journée mondiale du don du sang, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne intitulée « Donneurs de sang tous soignants ». À l'approche des vacances, il manque d'après l'organisme 30 000 poches dans les stocks. L'établissement français du sang explique avoir besoin de 10 000 dons chaque jour pour sauver des vies. Entretien avec le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'établissement français du sang.
L'état des stocks est très préoccupant. Il nous manque 30 000 poches au niveau national. Et il est vrai que nous sommes très préoccupés dans la mesure où nous allons aborder la période estivale avec un niveau assez bas si nous n'arrivons pas dans les semaines qui viennent à récupérer ces 30 000 poches qui sont vraiment importantes parce qu'on sait que durant la période estivale, les gens partent en vacances, oublient de donner leur sang et évidemment on a une fréquentation qui est moins importante pendant cette période, et en plus, ça vient sur un fond de niveau de fréquentation particulièrement bas maintenant depuis la période Covid, il faut dire ce qui est.
Il n'y a pas eu de reprise depuis la crise sanitaire, les habitudes ont été perdues, les bonnes habitudes?
Si vous voulez, l'établissement français du sang a été durablement marqué par cette crise, et nous rencontrons des difficultés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les difficultés de recrutement des donneurs. En ce qui concerne notre offre de collecte, eh bien, nous devons reconstruire un petit peu notre stratégie dans la mesure où une des grandes sources de prélèvement était les entreprises. Vous savez qu'une grande partie maintenant, eh bien, il y a du télétravail, donc il va falloir que nous réfléchissions comment retrouver ces donneurs qui donnaient sur leur lieu de travail. Et enfin, nous avons des difficultés de recrutement de personnel. Comme c'est le cas partout, vous avez pu le voir dans le monde de la santé, eh bien, nous n'y achèterons pas. Et nous avons des postes non pourvus en médecin, en infirmière, enfin tout cela contribuant évidemment à des difficultés d'organisation qui collent aussi difficilement à une évolution du mode de vie de la population.
Donc la crise à l'hôpital aujourd'hui en France a des conséquences également sur les dons de sang.
La crise à l'hôpital a des conséquences, mais la crise, je dirais, dans la société en général, hein, évidemment, a un impact sur le don, mais ce qu'on retrouve à l'hôpital d'un point de vue personnel de santé, eh bien, nous en faisons partie et nous rencontrons aussi ces difficultés.
Pouvez-vous nous rappeler les conditions pour donner son sang?
Il faut évidemment être âgé de 18 à 70 ans, et il faut peser au moins 50 kilos, il faut être en bonne santé, et ça, l'entretien préalable permettra d'évaluer l'aptitude à donner son sang. Et puis, il ne faut pas oublier que pour le don de sang, il ne faut pas être à jeun. Et dans le même temps, et surtout dans cette période de canicule, je dirais, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater. Alors évidemment, on proposera une hydratation lorsqu'on vient donner son sang, mais il est important vraiment de bien boire.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas, cela permet aussi de connaître son groupe sanguin?
Absolument. Quand on vient donner son sang, un certain nombre d'analyses sont réalisées, dont son groupe sanguin, parfois même au-delà du groupe sanguin. On va avoir donc une carte de groupe sanguin. Et parfois, ça permet de détecter même des groupes sanguins rares. Ce qui est important.
Le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'établissement français du sang. Des affrontements ont éclaté entre tribus rivales dans l'ouest du Soudan, au Darfour Ouest. Des violences qui ont fait plus de 110 morts. 14 villages ont également été incendiés. Le président américain Joe Biden se rendra en Arabie Saoudite les 15 et 16 juillet prochains. Une annonce de l'agence de presse officielle saoudienne. Le président américain rencontrera le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. La Maison Blanche indique que Joe Biden abordera lors de cette visite le développement de la sécurité et de la coopération économique, ainsi que d'autres questions. Le président américain assistera également lors de son séjour en Arabie Saoudite à un sommet du Conseil de coopération du Golfe, de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie. L'aéroport international de Bagdad a fermé pendant quelques heures hier en raison d'une nouvelle tempête de poussière. Ce phénomène s'est fortement amplifié ces derniers mois dans ce pays semi-désertique. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en l'espace de quelques semaines une dizaine de tempêtes de sable et de poussière. Un centre à destination de personnes toxicomanes devrait voir le jour dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache, dans le 16e arrondissement de Paris. Ce projet, porté par l'Agence régionale de santé Île-de-France, suscite l'inquiétude de nombreux riverains qui craignent que ce lieu, situé notamment près d'un lycée, devienne un point de fixation pour les dealers. L'élu LR de Paris, Samia Badat Karam, estime que ces personnes toxicomanes pourraient être soignées avec un encadrement adapté, mais que là, il s'agit plutôt d'une logique perdant-perdant, à la fois pour les riverains et pour les personnes toxicomanes. Samia Badat Karam.
Nous avons été extrêmement surpris parce que nous avons appris en fait dans la presse, par la voix de Madame Anne Souiris, adjointe de Madame Hidalgo, qui d'ailleurs se réjouissait d'un centre pour toxicomanes en plein cœur du 16e arrondissement, à proximité immédiate du parc Sainte-Périne, du lycée Jean-Baptiste C, de l'église d'Auteuil et d'un nombre très très important d'écoles maternelles, élémentaires et donc de collèges et de lycées. Donc on a trouvé cette déclaration déjà très très malvenue puisqu'elle se réjouissait de quelque chose qui sera extrêmement dangereux et pénalisant pour les riverains de tous âges. Donc une déclaration dans la presse très surprenante puisque la mairie du 16e en fait n'était pas au courant. Nous, on savait qu'il y avait un site qui était inutilisé et désaffecté. Et le maire du 16e, Francis Piner, avait demandé depuis très longtemps que ce site ait notamment comme destination un refuge pour femmes battues. Donc on avait fait des propositions à la mairie de Paris et à l'ARS. Et non seulement nous n'avons pas été informés concernant ces propositions, mais on apprend par la presse, par une adjointe de Madame Hidalgo, qu'il y aura donc un lieu où des toxicomanes non sevrés, potentiellement violents, vont être installés à proximité des écoles. Qu'on soit très clair, hein, c'est pas que dans le 16e on ne veuille pas accueillir particulièrement, mais c'est que c'est vraiment la destination, le lieu à proximité des écoles maternelles, élémentaires, des collèges, des parcs et de l'église qui pour nous est totalement malvenu et inapproprié. Et d'ailleurs, les spécialistes, les gens qui sont drogués au crack, ces malheureuses personnes, hein, disent qu'elles doivent être isolées des lieux de consommation. Or, le 16e n'est pas très loin, in fine, des arrondissements où il y a de la vente de crack, et en métro, c'est 10 ou 15 minutes, donc c'est vraiment une très très mauvaise idée, et pour les riverains, et pour ces personnes qui potentiellement seraient en sevrage.
Quelle est l'autorité décisionnaire ?
L'autorité décisionnaire, c'est l'ARS. L'ARS, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé. D'ailleurs, Francis Piner, dès le départ, il a écrit à Madame Bourguignon, la ministre de la Santé, parce que quand on a eu connaissance de ce projet par Madame Souiris, c'était déjà Madame Bourguignon qui venait d'être nommée ministre de la Santé. Donc Francis Piner a écrit à la ministre de la Santé, à la directrice de l'ARS, Madame Verdier, et nous n'avons pas de réponse concernant ces courriers. Madame Hidalgo et la mairie de Paris ont approuvé, se sont réjouis même du choix du 16e, mais c'est vraiment l'ARS, l'État, le gouvernement qui ont le dernier mot et qui sont décisionnaires dans cette histoire.
Alors comment ces personnes toxicomanes, ces personnes victimes de la toxicomanie devraient, selon vous, être prises en charge ?
Alors, il doit y avoir une prise en charge médicale et très très encadré, parce que dans les projets que nous avons lus, puisque nous avons eu connaissance finalement des appels à projets, il doit y avoir un encadrement. Là, ce qui est prévu, c'est un coach, un psychologue, mais alors absolument pas d'encadrement au-delà de ce que je vous ai dit. Or, pour 35 toxicomanes, pour 35 personnes, on s'attend quand même à un encadrement beaucoup plus important, notamment en termes de sécurité, parce qu'on sait que ces personnes qui ne sont pas sevrées sont potentiellement violentes, et surtout pas dans un lieu comme ça ouvert. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du crack, mais on voit très très bien que cet appel à projet est très très mal ficelé. Ces personnes pourraient être soignées, sevrées, avec un encadrement adapté. Je pense que là, c'est vraiment la logique perdant-perdant, et pour les riverains, pour les familles, et pour les toxicomanes. C'est devenu, malgré lui, le sujet de la campagne avec la sécurité. Alors, ce qui est terrible, c'est que, voilà, au niveau d'une mairie d'arrondissement, on n'a pas de compétences réelles en matière de sécurité, parce que même si on assiste à l'émergence de la police municipale, déjà, elle est en cours de déploiement, puis comme elle n'est pas armée... Excusez-moi, elle n'a pas un très très gros pouvoir dissuasif. Donc c'est vrai que la compétence de la sécurité reste quand même une compétence de l'État. Malgré tout, lorsqu'on va sur le terrain, nous les élus, et qu'on fait campagne pour notre candidat, donc notre maire Francis Pinaire qui est candidat aux législatives, donc dans le 16e arrondissement, en tout cas la partie sud, c'est vrai que les riverains nous parlent beaucoup de la détérioration de la sécurité dans Paris et également dans le 16e arrondissement, que ce soit au Trocadéro ou quand que ce soit par exemple à la porte de Saint-Cloud. Et Gérald Darmanin a reconnu qu'il avait plutôt déployé les forces de police dans le nord de Paris. Donc ils ont délaissé un peu le sud et l'ouest de Paris. Et donc oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Alors le député qui sera élu aura à faire entendre sa voix à l'Assemblée nationale pour que la sécurité sur l'ensemble du territoire, notamment à Paris, soit un enjeu majeur.
Samia Badat Karam, conseillère de Paris, élue du 16e arrondissement de la capitale. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, après l'accusation parole à la défense, les avocats de Salah Abdeslam et de ses 19 co-accusés ont commencé à plaider lundi et pour 2 semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vendredi, l'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes de Paris. Contre les 19 co-accusés, les 3 avocats généraux ont demandé des peines allant de 5 ans à la perpétuité. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, victoire du Maroc lundi soir lors du 2e match des Lions de l'Atlas. Ils l'ont emporté 2-0 face au Liberia. Après leur victoire contre l'Afrique du Sud, les Lions de l'Atlas sont ainsi enchaînés un 2e succès dans leur groupe K. Le gardien des mondes, le documentaire de la réalisatrice Leïla Chaïbi sera présenté ce mercredi à Tunis, un long métrage qui a pour héros Hassan, un homme qui vit depuis 40 ans dans un cimetière sur les collines du Gélaz en Tunisie. Leïla Chaïbi.
C'est un film qui s'appelle Gardien des mondes, qui est un long métrage documentaire, un documentaire de création, et qui s'intéresse à Hassan, qui est une personne qui vit dans le cimetière. Il y loge, il travaille également, de manière assez informelle, mais depuis plusieurs années. Donc c'est devenu une figure du cimetière. Et aussi, du coup, il a un regard un peu particulier sur le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment à la croisée des mondes, on va dire.
Comment avez-vous fait sa connaissance ?
Par hasard, en fait, j'ai accompagné une amie qui a un frère qui est enterré à cet endroit, enfin dans ce cimetière qui est très très grand, puisque c'est le... peut-être le cimetière le plus grand et le plus ancien, je crois, de Tunisie. Et donc, c'est le monsieur qui s'occupait de la tombe. Et il est venu, il nous a parlé. Il a parlé du djinn qui habitait dans l'arbre juste au-dessus. Et moi, ça m'a assez intriguée pour avoir envie de le revoir et puis de mieux connaître le lieu aussi. En fait, moi, quand je l'ai vu, mon métier, en tout cas, c'est la caméra. Même avant que je devienne réalisatrice, je faisais des images pour d'autres documentaires. Et en tout cas, c'est une personne qui m'a parlé à ce niveau-là très vite. Il a fait vibrer en moi un imaginaire, l'envie aussi de découvrir un territoire qui était presque interdit. Donc dès le départ, en tout cas, moi j'avais l'intention de le connaître, mais dans ce cadre-là, d'avoir envie de le mettre en image, etc. Et assez vite, en fait, ça a été une discussion entre nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on a passé beaucoup de temps à mieux se connaître avant que le film existe et qu'il soit en production. Mais entre nous, en tout cas, entre le personnage et moi, ça a été assez vite acté qu'il y aurait un film.
Et qu'est-ce que vous avez appris en l'écoutant, mais aussi en le regardant, puisque vous l'avez filmé ?
En fait, Hassan, il m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un qui vit dans le cimetière, et puis moi, je l'appelle le gardien des mondes, mais en vrai, il a quand même une situation qui peut être beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire c'est un SDF, c'est quelqu'un qui a qui a une vie assez précaire et qui a trouvé un espace de liberté là où on lui en offrait pas beaucoup, en fait. Et donc, c'est à ce niveau-là, moi, qui m'a inspirée, c'est-à-dire d'avoir cette force pour garder foi en la vie, avoir une certaine rigueur aussi dans ses rapports humains, dans sa manière, lui, de gérer son quotidien, voilà. Je le trouvais très inspirant parce qu'il a une façon de sublimer sa propre existence qui est assez, assez magique.
Qu'est-ce qu'il a fait avant d'être le gardien de ce cimetière en Tunisie?
Alors, je pense qu'il a fait quand même pas mal de petits boulots. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il habite dans le cimetière. Il y est lié parce que il y a tout plein de quartiers assez populaires autour du cimetière qui sont des quartiers historiquement qui étaient les quartiers d'Algériens en Tunisie. Et donc, il vient de ces quartiers-là. C'est des populations qui traversent le cimetière et donc qui ont déjà un rapport au lieu qui est pas moins sacré, mais qui fait partie de leur quotidien. Et en fait, il a immigré aussi. Il a vécu quelques années en Italie. Et voilà, le cimetière, finalement, c'est un peu son refuge. C'est l'endroit où il a atterri à chaque fois qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller.
Et quel est le regard qu'il porte sur la mort, lui qui fréquente finalement des familles endeuillées toute la journée?
Eh ben justement, il a, en tout cas de ce qu'il dit, il n'a pas peur de la mort, c'est une étape qui fait partie de la vie, et puis c'est peut-être d'ailleurs un chemin vers une autre vie, voilà, qui définit lui d'une manière, qui peut être définie d'une autre, mais c'est quelque chose finalement qui fait partie de son quotidien, qui fait partie vraiment de l'existence et qui n'est pas quelque chose de triste en soi, c'est-à-dire c'est une étape. Voilà. Il y a un monde de justice aussi qui a peut-être après la mort, un monde d'égalité, un monde où chacun sera récompensé en fonction de ses actions. Donc pour lui, il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire il y a un endroit après la mort, les choses se remettent en place.
Leïla Chaïbi, réalisatrice du documentaire Le Gardien des Mondes, documentaire présenté ce mercredi à Tunis. Leïla Chaïbi répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Les invités de Pluriel ce mardi soir à 19h et 23h, Brigitte Kuster, députée de Paris, candidate de la droite et du centre dans la 4e circonscription de Paris. À 19h30 et 23h30, Léa Drouet, candidate de la NUP à Clichy et Le Valois, émission rediffusée ce mercredi matin à 7h et 7h30, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.